Peut-être qu'on peut commencer tout simplement par les présentations, peut-être pour rappeler qui, enfin, comment toi tu aimes te présenter, comment toi tu aimes te présenter.
Alors, moi, je m'appelle Dalila d'Aléas Bouzard, et donc je suis artiste plasticienne, et je suis mes médias de prédilection, on va dire, c'est la peinture, le dessin et la performance. Et donc, j'ai fait l'école, enfin, je continue ou pas?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Donc, ça fait. J'ai fait l'école des beaux-arts de Paris. Je suis parisienne. Je pense, du fait de mes origines, puisque je suis née en Algérie, mon travail s'est concentré sur des problématiques qui sont liées à l'histoire, l'histoire de l'art et l'histoire, par exemple, entre la France et l'Algérie, ou l'histoire des dominations. D'une manière large, et puis aussi c'est concentré sur une réflexion par rapport au corps de la femme, et donc à la condition de la femme et aux conditions de son émancipation. Ça aussi, je pense que cette problématique vient du fait que je viens de l'Algérie, mais pas que, puisque cette problématique de la liberté du corps de la femme, elle se pose dans le monde entier, comme l'actualité nous le montre
Bien sûr.
très très fortement en ce moment. Et du coup, en peinture, j'ai développé une réflexion par rapport à la représentation. Qu'est-ce que la représentation? Et comment la représentation peut servir, est un outil du pouvoir, et donc un outil aussi de la domination. Donc, je trouve que c'est intéressant de réfléchir à ça avec la peinture. Parce que la peinture, pour moi, c'est la source des représentations. Donc, il y a cette réflexion qui s'inscrit dans l'histoire de l'art, puisque je vais, par exemple, j'ai fait plusieurs versions des femmes d'Alger de Lacroix. Là, pour cette tapisserie, je reprends aussi l'idée des représentations dans la tapisserie, que je vais détourner en replaçant le corps de la femme au centre. Alors que dans l'histoire de la tapisserie, la femme est toujours on va dire, un élément qui est très très mineur ou qui n'est pas représenté. Et récemment, dans la performance, donc j'ai développé de plus en plus la performance parce que ça me donne un autre accès au public. C'est un autre rapport à l'autre je trouve, est beaucoup plus enrichissant que le mode de l'exposition, où il y a toujours une distance avec le spectateur, où il y a d'abord un travail dans l'atelier, puis après une monstration, mais qui va pas diminuer cette distance. Alors que dans la performance, non seulement le public est actif, puisqu'il prend part du fait qu'il soit là, il fait partie de la performance. Et il permet à cette performance d'exister, puisque moi, la performance, c'est vraiment dans le rituel. Donc, en fait, qui dit rituel dit qu'il y a une participation des autres, et le rituel se fait pour les autres. Et aussi, il y a une urgence qui se crée dans la performance, qu'il n'y a pas, par exemple, dans le travail d'atelier, par rapport à l'autre. Et je trouve que c'est complémentaire par rapport au travail que je peux avoir en peinture, puisque ça, c'est dans la continuité de mes réflexions, mais qui peuvent se déployer d'une manière performative et avoir un impact, je trouve, beaucoup plus direct et, on va dire, impressionnable pour les gens. Et après, qui peuvent aller, qui va faire écho, qui va produire un autre écho avec le reste de mon travail.
Est-ce que c'est les performances dont tu parles, c'est quand tu peins notamment sur les visages du public, c'est ça?
Alors oui, il y a ça, c'est des performances. Donc là, ça s'appelle Studio Dakin et Studio Paris, et aussi Orient Féminin, que j'avais fait au Quai Branly. Donc là, ces trois performances, elles sont, on va dire, c'est un mode de performance où j'invite le public à venir poser pour faire un portrait, et je vais Dans deux cas, je peins sur le d'abord le visage des gens avant de faire leur portrait. Donc la performance, elle est dans cette peinture, mais elle est aussi dans le fait de peindre en direct devant un public et avec un modèle. Et du coup, il y a cette urgence que le modèle est là et que on est obligé d'être dans l'action et dans la concentration. Et donc là, la performance, elle est à ce niveau-là, aussi dans le fait que quelque part, comment dire, je réhabilite une autre forme d'art qui est aussi un savoir-faire de l'art. Donc là, la peinture, le portrait, et je le montre aux gens, c'est-à-dire les gens voient l'art en train de se faire. Donc ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui est très très rare aujourd'hui. Et après, dans ce type de performance, il y avait aussi la performance physique, puisque en général, c'est des performances qui durent minimum 3 heures, 5 heures ou 8 heures. Donc c'est aussi sans s'arrêter. Donc il y a aussi un challenge physique. Il y a aussi l'idée d'atteindre des limites et de se mettre dans un état d'urgence, je sais pas comment dire. Et après, il y a un autre type de performance, comme celle que je vais faire à Clermont-Ferrand, justement, avec la tapisserie. C'est plus un rituel, c'est-à-dire que là, je vais développer un rituel que j'ai inventé, dont le but. Après, mes performances, elles ont toujours un objectif bien précis, c'est-à-dire que je fais une performance parce qu'il y a une nécessité et pas parce que je veux faire une performance. Donc là, la nécessité, par exemple, de cette performance que je vais faire à Clermont, c'est le déplacement d'un corps. Donc la problématique, c'est comment déplacer un corps symboliquement et comment j'utilise un rituel pour le faire. Et là, à chaque fois dans la performance, on va dire que les constantes, c'est l'utilisation de la peinture sur le corps ou bien sur la toile, l'utilisation aussi d'une liquidité, donc souvent c'est de l'eau. Et après, une sacralisation de l'espace, de la performance. Donc, il y a aussi un rapport à l'espace.
C'est marrant que tu utilises ce mot de sacralisation, puisque depuis tout à l'heure, j'ai envie de te poser la question, est-ce que finalement, il y a toujours une volonté un petit peu de désacraliser l'art, enfin, j'ai bien compris ce besoin d'amincir la distance qui te sépare du public, mais est-ce que tu penses que c'est ce que il y a aussi une volonté de désacraliser quelque part? Ou pas forcément?
Non, je dirais pas ça comme ça. Au contraire, je pense que moi, j'ai plutôt envie de ramener du sacré dans l'art. Et parce que je pense que parce que dans ma logique, il y a le sacré avant l'art, et il y a l'art, et le sacré peut être ramené dans l'art. Donc, non pas que l'art est sacré, mais que l'art, il peut être un médium pour le sacré. Donc, et en créant cet espace sacré aussi, donc que ce soit dans la performance ou que tu peux amener aussi dans la peinture par ce que tu montres, du coup, le sacré pour moi, c'est aussi une porte ouverte à une communication et à d'autres choses qui se passent dans la visible.
Eh ouais, d'accord, parce que quand moi je lisais que la tapisserie à Damas s'était inspirée donc d'une technique de broderie au fil d'or qui était réservée aux chefs de guerre, c'est ça?
C'était à l'origine, ça vient du Moyen-Orient et c'était donc une tenue assez élitiste qui était portée par des rois. Donc après, on peut dire que le roi, c'était le chef de la guerre, le chef de la guerre. Et ensuite, ça a été vraiment amené depuis l'Orient en passant par la Turquie, l'Andalousie, le Maghreb, etc. Et ça a vraiment beaucoup évolué au fil du temps. Et ça s'est popularisé vraiment depuis le 19e siècle, aussi dû aux matériaux qui devenaient accessibles, parce qu'avant c'était vraiment avec de l'or véritable.
D'accord, ouais. Mais ça, donc c'était pas, il y avait pas là aussi une sacralisation dans le sens, celui qui pouvait broder, c'était, il n'avait pas une fonction particulière. Est-ce que par exemple les femmes avaient le droit de broder ces tenues-là? Est-ce que tu sais ça?
Non, ça je sais pas, mais par contre, c'est sûr que ces tenues étaient réservées à des gens, on va dire, de l'aristocratie. Mmh. Après, je sais en ayant fait des recherches qu'en France, par contre, la broderie avec du fil doré, elle était vraiment réservée, par exemple, aux gens d'église. Donc, ça va être l'évêque, etc., etc. Ou à des tentures qui allaient servir vraiment le sacré, qui allaient être porteur de la religion chrétienne. D'accord. Et après, ça a été... Voilà, après, c'est passé dans la noblesse aussi, mais je pense qu'il y a une grande partie de la broderie, c'était clairement délimité dans le champ du religieux.
Et ça, c'est ta première œuvre textile, hein, c'est ça?
Ouais.
Et du coup, est-ce que pour toi c'est naturel, de la même manière que tu peins sur des toiles et tu peins sur des corps, est-ce que d'aller finalement sur une toile, enfin aller broder, c'est une suite logique ou c'est plutôt une bifurcation pour toi?
Alors c'était pas, il y avait aucune logique de passer de la peinture à la tapisserie.
Ouais.
Et jamais j'y aurais pensé. C'est vraiment venu on va dire d'une convergence d'éléments qui m'ont amené à ce type de broderie. C'est venu d'abord d'un projet que j'avais de faire une installation à partir d'une photo, donc de Garcia Rodero. Et étant incapable de faire cette installation parce que tout simplement j'ai pas la capacité de créer une installation, d'avoir une vision dans l'espace des choses. Donc je me suis orientée vers la 2D, donc c'est ce que je sais faire. Mmh. Et j'ai fait cette tenture parce que dans mon idée d'installation, il y avait une tapisserie et ensuite j'imaginais des sculptures, des choses, des objets. Donc j'ai gardé juste cet élément de cette première vision de l'installation. Et ensuite, comme la réflexion autour de cette installation est tournée autour du corps d'une petite fille, c'est-à-dire la photo représentait une petite fille sur un autel, ça m'a amené tout de suite à la réflexion sur le corps de la femme et sur l'évolution, enfin sur le devenir de ce corps de petite fille. Et donc ça m'a amené naturellement à réfléchir sur le mariage, le rituel du mariage. Mmh. Et comme en Algérie, ce vêtement de velours brodé en fil doré est utilisé exclusivement pour le mariage, par la mariée. Donc j'ai eu l'idée de faire cette tenture en utilisant la même technique que ce vêtement pour détourner aussi ce rituel et pour détourner ce vêtement qui est donc un vêtement de soumission, parce que pour moi le mariage c'est le passage de la petite fille à la femme soumise au patriarcat, et donc ce vêtement donc est le symbole de ce rituel. Donc le fait de détourner ce vêtement et de le faire devenir une tapisserie qui va représenter les trois corps de la femme, et donc aussi qui va avoir comme mission, on va dire, d'exprimer la puissance de la femme, voilà, c'est arrivé comme ça par une logique de réflexion, on va dire, qui m'a amené entre ma culture, des références extérieures comme cette photo de Garcia Rodero et d'un projet d'installation, ça m'a amené à créer cette tapisserie. Mais après, même dans la confection de la tapisserie, j'étais confrontée à, on va dire, plein de problématiques, puisque je savais pas faire de la broderie, je savais pas du tout comment on faisait ça et tout. Donc j'ai dû aussi aller chercher des collaborateurs qui, eux, avaient le savoir-faire. C'est devenu un projet, ça a dépassé, on va dire, le début du projet. mais dans un bon sens, parce qu'au final, j'ai dû aller en Algérie, je suis retournée en Algérie pour chercher des brodeuses qui avaient ce savoir-faire.
Ouais.
Et donc, ça m'a aussi permis de renouer avec, d'avoir une, on va dire, il y avait aussi une dimension sociale qui était de rentrer dans la vie de femme, de voir comment elle travaillait, de qu'est-ce que c'était que ce, parce qu'en Algérie, ça, mais c'est, il y a beaucoup de femmes qui travaillent à la maison, pour faire de la broderie, et c'est vraiment un métier informel. Et en même temps, c'est, ce métier, c'est vraiment une valorisation, du travail de la femme et de la femme en tant que être économique avec une puissance aussi, puisque la brodeuse qui a travaillé avec moi, en 3 semaines, elle a gagné, je pense, plus que son mari. Donc, il y avait aussi cette dimension qui me plaisait de valoriser, donc, à travers l'expression artistique, la femme, mais aussi concrètement dans la réalité, en la faisant travailler, en discutant avec elle de ce projet, en la faisant rentrer dans un autre projet qui avait une dimension artistique aussi.
Ce voyage en Algérie, c'était quand? C'est combien de temps?
Ben, l'année dernière, j'ai fait 3 voyages en février, septembre et novembre.
Parce que je lisais une interview de toi dans Jeune Afrique, je crois
Ouais.
qu'il était paru en 2018, où, alors je sais pas si c'est le journal ou si c'est tes propos, hein, tu vas pouvoir éclairer ça, qui avait l'air quand même de mettre en avant une certaine, un certain rapport très, très, très ambigu, très dur avec ton pays d'origine. Est-ce que du coup ce travail-là t'a fait évoluer dans ce lien avec ton pays d'origine ou?
Bah, je ne sais pas trop ce que ça disait à ce moment-là, mais oui, disons que l'Algérie, c'est un pays patriarcal, mais je dirais que c'est pas la France aussi, c'est un pays patriarcal. Hein. Mais où les traditions patriarcales sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus visibles, et où la femme a vraiment, au niveau de ses droits et au niveau physique, elle est beaucoup plus oppressée, on va dire, qu'en France, ça c'est évident, quoi. Donc il y a un vrai combat pour l'émancipation de la femme, aussi bien au niveau juridique, puisqu'il y a encore le code de la famille, donc qui restreint les droits des femmes, et qu'au niveau social et qu'au niveau social, parce que la femme, voilà, les espaces de l'homme et de la femme sont, enfin c'est très compliqué, mais. Et aussi parce que la religion, qui s'est, on va dire, bah, avec tout ce phénomène comment dire, pas d'intégrisme, mais il y a un durcissement de la religion qui n'était pas en Algérie avant, qui fait pas partie de la culture algérienne, on va dire. Et aussi, je pense, il y a plein de facteurs qui sont aussi la guerre d'indépendance, la guerre civile des années 90. Tout ça fait que c'est une société très compliquée et aussi où il y a un rapport à la violence qui n'est pas encore, on va dire, équilibré. Donc, cette violence qui ne date pas de longtemps, elle est encore là dans la société, mais à différents niveaux, comme qui va plus s'exprimer dans des niveaux, par exemple dans la famille ou entre les gens. Donc oui, moi je suis très critique par rapport à mon pays, mais j'ai aussi beaucoup de fierté de venir de ce pays parce que je trouve qu'en Algérie il y a aussi beaucoup de choses très très positives, beaucoup de créativité. Et il y a aussi un vrai challenge de faire revivre une culture, de la réveiller, par exemple comme ces savoir-faire qui se sont vraiment perdus de la broderie, ça vaut le coup de réinventer ces savoir-faire et de les valoriser parce qu'il y en a encore, mais qui sont pas du tout valorisés, en tout cas là-bas. Et en plus, je trouve que ça a vraiment des ponts avec la France, puisque ben, la broderie, elle existe je sais pas si elle existe dans tous les pays du monde, mais elle est vraiment
Oui.
partagée par énormément de pays, en tout cas la France ou l'Algérie ou le Maghreb, le Moyen-Orient, etc. Jusqu'à l'Orient, l'Inde, l'Asie partagent cette tradition de la broderie, ce savoir-faire qui s'est plus ou moins perdu. Maintenant, en France, c'est que le marché du luxe qui va utiliser la broderie. Et donc, je trouve qu'il y a quand même, il y a, historiquement, il y a des liens qui existent à travers ce savoir-faire, cette expression artistique. Donc pour moi, c'est hyper intéressant parce que vivant en France, étant aussi française, ça me permet de pouvoir créer un dialogue entre mes deux cultures. Et là, c'est vrai que je vais le concrétiser plus cette année, parce que là, je retourne en Algérie pour refaire des tapisseries qui seront plus petites, avec les mêmes techniques, mais en essayant de développer aussi, d'ouvrir cette broderie à d'autres techniques, par exemple à la laine ou à d'autres techniques qui ne sont pas que le fil doré, et de m'inspirer avec ces techniques-là, ce savoir-faire en Algérie, mais de m'inspirer de l'histoire de l'art française. Donc par exemple, là, je vais faire trois tapisseries inspirées de la Dame à la Licorne. Donc pour moi, c'est passionnant de pouvoir faire se joindre la France et l'Algérie, mais dans un autre rapport qui n'est pas le rapport à l'histoire conflictuelle.
Oui.
Ou,
Et justement, t'es arrivé à 2 ans en France, hein, c'est ça?
oui, c'est ça.
Est-ce que tu penses que dans tout ce que tu racontes, notamment dans la revalorisation des savoir-faire, tout ça, est-ce que tu penses que la diaspora algérienne a une place toute particulière?
Oui, je pense que la diaspora elle a une place importante. Elle a une place importante qui est un peu compliquée parce que c'est compliqué, par exemple, de trouver sa place, on va dire, que ce soit en France ou en Algérie. C'est compliqué de trouver sa place, mais plus on regarde des autres qui ont tendance à donner une place
À t'assigner une identité, ouais. Hein.
à nous assigner, et donc
Oui.
d'être indépendant et aussi de pouvoir rendre, d'aller de créer des vraies rencontres, on va dire. Ça, je pense, c'est un peu difficile. Par exemple, en Algérie, pour les artistes de la diaspora, c'est difficile d'être reconnu en Algérie. Parce qu'il y a aussi une sorte de nationalisme mal placé, on va dire, qui fait que l'État algérien, en tout cas, mais aussi les institutions, mais aussi une sorte de culture, n'a pas les moyens de valoriser, de profiter du trampoline, on va dire, que certains artistes algériens peuvent donner, par exemple comme Kader Attia ou Adel Abdeslam, qui sont vraiment des artistes hyper reconnus et qui ont quand même une puissance de frappe assez impressionnante. D'autres artistes ou des institutions algériennes pourraient profiter de ce tremplin pour grandir. Et donc ça se fait pas. Mais alors moi je suis pas du tout diplomate ou de la politique, donc faut pas me demander à moi pourquoi et comment. Moi je constate juste que ça se fait pas. Et je pense qu'en France aussi c'est difficile parce que alors ça c'est vraiment mon impression personnelle, mais j'ai quand même l'impression qu'en France dans la visibilité qu'on peut donner à des artistes, il y a aussi donc là ça reprend ma réflexion sur la représentation. Parce qu'en fait, les représentations, c'est elles après qui permettent aux autres de se projeter dans telle ou telle représentation. Donc, en France, c'est vrai que si on va dans les centres d'art, comme les FRAC, etc., par exemple, pour une personne comme moi qui vient de l'Algérie, qui a été naturalisée en France, c'est très difficile de se projeter. Je n'ai pas de projection, qui me ressemble. Donc, il y a ça d'une part. Et d'autre part, que c'est la place dans ces institutions, il y a très peu de place pour ce type pour des artistes comme ça qui vont être mal identifiés ou est-ce qu'ils viennent de l'Afrique et ils nous parlent de l'Afrique? Est-ce qu'ils viennent de France et ils nous parlent que de la France? Voilà, c'est compliqué. Donc je pense que pour moi, par exemple, qui fait de la peinture, qui a vraiment une inspiration, parce que moi, ce qui m'a vraiment fait aimer l'art, c'est la peinture classique que je voyais au Louvre, que j'ai vu au musée d'Orsay, tout ça. La peinture de la Renaissance, c'est ça qui m'a fait aimer l'art vraiment. Donc moi, mon inspiration artistique, elle vient de la peinture et je revendique cet héritage. Mais en France, c'est compliqué déjà de revendiquer un héritage en peinture parce que la France a fait une... Il y a vraiment une rupture avec la peinture dans l'art, on va dire que dans l'histoire de l'art en France, on a voulu créer une rupture avec la peinture, donc c'est déjà compliqué avec la peinture et en plus la peinture française, donc et la peinture classique occidentale, donc il y a une sorte de dans l'identification de l'identité, on va dire que c'est plus compliqué. Donc les artistes de la diaspora, je pense qu'on est un peu... Après, il y a différents artistes, parce qu'il y a ceux qui viennent vraiment d'Afrique, qui sont nés en Afrique. Kader Attia, je ne sais pas si on peut... Pour moi, ce n'est pas un artiste de la diaspora, c'est Kader Attia, il est français, il est né en France. Il n'a pas émigré, ses parents, ils ont émigré, tout ça. C'est un peu différent des artistes qui vont grandir en Afrique et venir en France. Et bon, voilà, il y a toutes sortes de configurations, mais en tout cas, c'est en ce moment, je pense que c'est un bouillonnement et que c'est en train un peu de. Ça permet aussi de faire bouger les choses, de faire bouger les lignes.
Et alors, tout ça m'amène de manière assez limpide à ma dernière question qui est un peu la question
piège
le climax pas du tout piège l'intitulé tu sais que l'intitulé du festival
oui, love
ouais, etc ouais. Voilà donc du coup voilà la question à laquelle des philosophes ont mis une vie à répondre, je vais te la poser en 2 minutes. comment toi t'appréhendes ce titre d'exposition Love etc. Comment tu le comprends, le love aujourd'hui, le love demain, comment tu prends ça?
Alors déjà j'adore ce titre Love etc. Je trouve que c'est un très beau titre, c'est très glamour et que ça laisse place à l'imagination. Après, c'est vrai que j'en ai discuté beaucoup avec la curatrice en disant mais comment tu penses que mon travail peut s'intégrer et tout. Donc moi, ce que ça me fait penser, c'est par rapport à tout l'enjeu de posséder son corps et comment le corps, il est à travers l'amour physique, il devient une porte, une ouverture vers l'autre et aussi, alors en ce qui me concerne, pour moi, une ouverture vers le sacré. Et donc, pour moi, love, etc., ça me fait vraiment penser à ça. Je sais pas si je suis claire ou pas.
C'est très clair. Et puis, c'est ta vision à toi, donc t'es forcément claire.
Ouais.
Est-ce que peut-être pour finir, est-ce que cette vision que tu as du love par rapport à ce rapport au corps physique, cette ouverture au sacré, est-ce que c'est ancré depuis longtemps ou c'est quelque chose que tu as mûri, notamment avec ton activité d'artiste?
C'est ancré depuis longtemps, déjà par expérience, hein. j'ai expérimenté le love. Je trouve que c'est vraiment un rapport à l'autre qui est exceptionnel dans le sens où aborder l'autre par la question du love. Donc moi, ce que j'appelle love, c'est aussi là, je parle vraiment de l'amour physique. Donc aborder l'autre par l'amour physique, c'est permettre une rencontre qui va pas être dans tout ce que la société elle va nous oppresser dans les stéréotypes. Je veux dire, quand on regarde quelqu'un, on va d'abord par exemple voir son physique, comment il est habillé, on va avoir tout un tas de préjugés qui se mettent en place donc préjugés positifs ou négatifs. Alors que si, par exemple, on se retrouve dans une pièce dans le noir avec quelqu'un et qu'on va s'en rendre compte juste par le corps et par l'amour qu'on va faire avec cette personne, ben, tous ces préjugés, ils disparaissent et on rentre dans un autre rapport qui nous permet vraiment d'accéder à l'autre, je vais dire dans une authenticité, dans une vérité que le rapport social ne permet pas parce que finalement, on porte tous des masques sociaux qui permettent pas à l'autre on ne peut jamais être vrai, on va pas se livrer, on va toujours être dans une contenance. Et que je trouve que l'amour physique permet de dépasser ces contraintes sociales. Après, par exemple, quand j'ai sorti des Beaux-Arts en 2003, j'ai exposé à Göteborg, au musée des cultures du monde de Göteborg, une exposition qui parlait justement de l'amour aussi, mais dans le contexte aussi de l'épidémie du sida. Et j'avais, on avait, ils avaient choisi une peinture où on voit une scène d'amour, enfin une femme en train de jouir avec un. On voyait plus ou moins on voyait pas l'homme en entier, mais on voyait. Et j'avais écrit une sourate du Coran sur la peinture. Donc, et bon, en fait, ce tableau a été censuré au bout de 2 mois, je crois, parce qu'il y a eu des plaintes. Il y a eu des plaintes bah, de la part d'intégristes. Enfin, j'ai été personnellement menacée de mort. Enfin, ça a fait tout un scandale en Suède. C'est une affaire qui n'est pas du tout arrivée en France. Et donc, cette peinture, c'était un peu un manifeste de ce que je pensais de l'amour physique. Amour physique comme ouverture vers la spiritualité. Vers une liberté réelle, quoi.
Et l'amour physique, parce que je viens d'interviewer quelqu'un qui fait la broderie, qui sera là aussi dans l'exposition, Pascal Monteil, qui lui rapproche spiritualité et enfin rapproche, pour lui c'est indissociable la spiritualité de l'érotisme. Que je comprenne bien quand tu dis amour physique, est-ce que pour toi il y a un synonyme soit de sexualité, soit d'érotisme, ou juste pour bien préciser ce que tu entends par amour physique?
Ouais, c'est la sexualité.
Ouais, ok.
Ouais.
Très bien.
Après, pas avec tout le monde, attention. Je veux dire, parce que dans le débat qu'il y a eu en France, là, dans les années 70, quand il y a eu la libération sexuelle, il y a des gens qui ont pensé que la libération sexuelle, elle devait aller partout, même. Ce qu'a développé la pédophilie dans des milieux intellectuels et tout ça. Donc non, moi c'est la sexualité mais entre deux personnes voilà, consentantes et enfin tu vois ce que je veux dire. Voilà, non mais parce que dans plein de sectes et tout aussi, ils ont prôné la libération sexuelle comme une ouverture à la spiritualité, mais ça a donné suite à des déviances criminelles, voilà, de la sexualité, de prédation et tout ça. Donc là, c'est vraiment entre. Voilà, enfin voilà, je pense que tu as compris.
Là. Bon, ben écoute, je vais pas te retenir plus longtemps. Merci infiniment du coup d'avoir comme ça là dans la minute avoir répondu
Non, bah, j'étais je suis
pas
là-dessus, donc je suis
favorablement.
dispo.
Ouais.
Ouais. Merci pour ton interview et je suis sûre que ça va être super.
Bah, cool. Merci infiniment à toi surtout. À très vite.
Ouais. Ciao.
Salut.